La semaine critique de Christian Jade sur Demandez le programme.
Je vous parlerai d'abord de Hors-la-loi, un petit coup de cœur, un texte de Régis Duquet, une mise en scène de Jérôme Dayer, à voir à l'atelier 210 jusqu'au 8 janvier. Les figures classiques sont là. Un shérif sobre, ici William Blake, un chef de bande rigolard qui règne sur Body, un village désert du Far West, qui s'appelle Frank, un second rôle attendrissant, Monsieur Ripley, et de l'anacrostiante Lulu et Pearl. Un espace ring pour les joutes verbales avec d'astucieux barreaux sur la droite qui pourront figurer une prison ou enfermer Franck. Avec, pour toute menotte, un pan amovible de la chemise de Franck. On va de clin d'œil en clin d'œil avec un shérif qui dégaine des fruits, la banane à la pomme, et soumet les nanas amoureuses de Franck à des fouilles corporelles légèrement érotiques avant les visites en prison. Un shérif qui lit Phèdre de Racine, retour à la tragédie grecque via la langue française, occasion parodique de parler de la loi et du tabou de l'inceste. Ajoutez une partie d'échecs qui remplace l'affrontement à coups de flingue, des intermèdes musicaux qui rappellent en léger décalage de genre mais pas de pays la comédie musicale américaine, un rôle superbe dévolu aux deux jeunes femmes, Pearl, l'instite d'une folle énergie tout-terrain, Yasmine Lassalle, la tornade de rire, et Loulou, la jeune fille, prostituée, douce, sensible à la beauté de la langue française. Il s'agit de Fanny Anciot, le calme imperturbable face à la tempête, Yasmine, très complémentaires les deux filles. François de Saint-Georges, lui, compose un replay, un second couteau naïf et charmant, alors que le duo shérif-mauvais garçon semble avoir été écrit pour des habitués du dialogue décalé, Hervé Piron et Enoch Rianker, la désinvolture souriante de l'un, Hervé, dialoguant avec le tsunami verbal d'Eno, les mots à la place des balles de Colt. À peine quelques excès verbaux, en tout petit bémol, d'un texte feuilleté du premier au troisième degré par Régis Duquet et une mise en scène simple, dynamique, juste, de Jérôme Dayer, qui, comme tout bon chef d'orchestre, laisse la bride sur le cou aux acteurs pour défendre un texte qu'il s'approprie et allège la patte par des gags visuels ou musicaux qui font chaque fois mouche. C'est en tout cas pour moi un des très bons spectacles de l'atelier 210 qui décidément cette saison confirme son rôle moteur dans la programmation jeune et risquée. Ça s'appelle Hors la loi de Régis Duquet à l'atelier 210 jusqu'au 8 janvier, donc au-delà des fêtes. Et puis je vais vous parler de la Bohème de Puccini dans une version tout à fait renouvelée. La bohème de Puccini mêle amour et mort, Mimi la tuberculeuse et Musette l'émancipée, aux prises avec quatre artistes bohèmes, sans le sou, un peu cynique, mais tellement sympathique dans le fond. On passe d'une mansarde glacée un soir de Noël à des scènes d'extérieur au café Momus ou à la barrière d'enfer, quand les grands sentiments ont disparu, avec retour à la mansarde pour le final mortuaire. Ça, c'est la tradition. Oubliez tout ça et découvrez un plateau nu où tombe la neige et où le passage de la mer rouge peint par Marcello devient un délicieux gag d'action painting où Marcello et Rodolfo lancent des sauts de peinture jaune et rouge sur un mur noir. Tiens, on dirait le drapeau belge. Surgit alors un immense sapin de Noël qui, couché ou debout, va s'adapter à tous les espaces évoqués. Bourré de cadeaux, il sera dépouillé par une bande de féroces garnements et mules de la société de consommation. Quelques tables suffiront à évoquer le café Momus, mais le retour à la mansarde pour un pauvre repas se transforme en un banquet luxueux où Rodolphe et Marcello deviennent soudain des bobos parvenus et méprisants. Il fuit lâchement, laissant Mimi mourir seule dans les bras de Musette. Autant les trois premières scènes fourmis de trouvailles surprenantes, autant ce final trahit un contresens entre les paroles et l'action. La métamorphose des gentils bohèmes romantiques en cyniques parvenus décrit bien le trajet de certains bobos 68ards ou artistes contemporains doués pour les affaires. Grosse ficelle quand même de mettre des années et non des mois d'écart entre le début et la fin de l'action pour justifier le devenir cynique des bobos. Et pourtant, j'ai marché, j'ai souvent même adoré pour trois raisons. D'abord, ce dépouillement conceptuel et visuellement séduisant. La direction d'acteurs de ces chanteurs est remarquable de naturel, on sent une maîtrise globale implacable de chaque détail. Enfin, surtout, la musique de Puccini épouse fort bien ce changement du sens littéral, comme si cette musique contenait déjà ce mélange de cynisme et de sentimentalité. C'est que l'orchestre aux mains de Carlo Rizzi est d'une totale justesse, soutenant quelques remarquables sonistes, dont la jeune Hermonella Jao, Mimi exquise à la voix souple et Anne-Catherine Gillet, impressionnante musette. Massimo Cavaletti est un Marcello rayonnant, alors que Giuseppe Filianotti, en Rodolphe, a vaillamment tenu son rôle au dernier tableau, le jour où je l'ai vu, malgré une tragique et soudaine extinction de voix. Heureusement, à la Monnaie, les deuxièmes distributions valent pratiquement toujours les premières.